Les informations, Lydiane Gena.
Bonjour. L'élevage dans les prairies et les pâturages du canton ne sera pas davantage favorisé. Le Grand Conseil neuchâtelois a longuement discuté ce matin d'un postulat PLR en ce sens. Le texte a finalement été retiré en raison d'un amendement de la gauche. Certains cantons se mobilisent pour tenter de freiner la hausse des primes maladies, mais certaines initiatives cantonales maintiennent des structures qui coûtent cher. C'est en substance ce qu'estime le ministre de la Santé, Alain Berset. Le conseiller d'État neuchâtelois Laurent Courte répond que d'autres paramètres doivent être pris en compte. Après les primes maladies, les loyers vont aussi prendre l'ascenseur. D'ici la fin de l'année, ils vont suivre la hausse des taux hypothécaires. Et malgré de longs débats au Conseil national ce matin, les propositions socialistes de moratoire sur les hausses des loyers ont toutes été refusées. La journée sera à nouveau bien ensoleillée en toute région. Il pourrait y avoir quelques voiles d'altitude cet après-midi et il va faire chaud jusqu'à 22 degrés, tant en plaine qu'à 1000 mètres. Thomas Wroblewski est candidat au Conseil d'État neuchâtelois. Militant pour la reconnaissance du vote blanc, il a déposé sa candidature en vue de l'élection complémentaire du 26 novembre. Son nom s'ajoute à ceux du socialiste Frédéric Méry et de Jean-Luc Pirenne du Parti fédéraliste européen dans la course à la succession de Laurent Courte qui a annoncé sa démission. Comme il le fait depuis sa première participation en 2014, en cas d'élection, Thomas Wroblewski s'engage à démissionner immédiatement. Toujours dans la course à la succession de Laurent Courte, le Conseil d'État a répondu ce matin au Grand Conseil à une interpellation du PLR qui demandait si une personne condamnée pénalement pouvait être candidate au Conseil d'État neuchâtelois. Le président du gouvernement, Alain Ribot, a indiqué que oui. Il a même ajouté que même s'il ne trouvait ça pas très cohérent, un changement n'était plutôt pas prévu. Il expliquait sa brève réponse en raison de l'urgence de l'interpellation déposée. Le canton de Neuchâtel ne prendra pas de mesures supplémentaires pour favoriser l'élevage dans les prairies et pâturages. La droite a retiré un postulat qu'elle avait déposé en raison d'un amendement de la gauche. Le texte partait du principe que les prairies captent plus de CO2 que l'Amazonie. À gauche, certains ont vu dans le texte un plébiscite pour une augmentation de l'élevage, une vision indéfendable pour elle à l'heure de l'urgence climatique. Raison pour laquelle elle a déposé un amendement. Le texte exigeait le respect des principes de l'agriculture extensive, c'est-à-dire sans augmenter la productivité à tout prix. Amendement soutenu par les Verts libéraux, d'où le retrait du postulat. Pour Laurent Favre, conseiller d'État en charge du dossier, le texte méritait d'être soutenu dans sa forme originelle.
Trois quarts des surfaces agricoles du canton sont des herbages et donc sont valorisées par du bétail. On n'a pas d'autre possibilité dans la valorisation pour l'alimentation humaine. Ce qui posait problème dans l'amendement, c'est de viser une exploitation extensifiée, encore plus extensive de nos prairies et pâturages. Il faut savoir que l'agriculture neuchâteloise est reconnue comme particulièrement durable. D'aller plus loin dans cette direction, c'est réduire la fonction alimentaire de notre agriculture neuchâteloise. Dans un pays qui a un taux d'auto-approvisionnement d'environ 50%, ça veut dire miser encore plus sur l'importation de denrées pour nourrir notre population. Ce n'est pas juste en termes de durabilité, en termes de CO2, mais aussi d'économie, de proximité, de circuit court. De ce point de vue-là, il était juste de demander l'adaptation de l'amendement vers de la durabilité, mais pas de l'extensification. À la fin, le postulat a été retiré, dont acte.
Laurent Favre qui répondait à Sarah Massy. La presse ne décolère pas au lendemain de l'annonce de la hausse des primes maladie 2024. Les journaux appellent à rendre plus social le système de santé, système jugé en faillite complète, tenu par des élus fédéraux motivés par leur propre intérêt. Le quotidien Le Temps estime néanmoins que la prise de conscience sera cette fois nationale, car pour la première fois, la Suisse alémanique est fortement impactée également. Ce matin, d'aucuns appellent le politique à revoir la gouvernance des soins. Le ministre de la Santé a néanmoins tenu à saluer les efforts qui sont réalisés par certains cantons. Et sur les ondes de RTS La Première, Alain Berset a fait référence à Neuchâtel.
La planification hospitalière aujourd'hui est une affaire purement, strictement cantonale. Les cantons s'engagent. Et ce que je constate, c'est que là où les cantons font un travail courageux, j'ai un exemple, je dois vous dire franchement, j'avais été très frappé du courage marqué par Laurent Courte à Neuchâtel qui avait tenté une réforme hospitalière importante et courageuse dans son canton. Que s'est-il passé? Il s'est fait sanctionner dans les urnes Il y a eu des initiatives populaires pour refuser ça. Le canton, c'est un choix, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, il faut accepter ça. A décidé de fixer une autre structure. Et il en a subi, lui aussi personnellement, des conséquences. Mais enfin, ça a des conséquences en termes de coûts. Voilà. Donc la planification hospitalière, elle est difficile. Il est indéniable. Je crois qu'on doit encore l'améliorer. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que les cantons, de manière encore beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui, réfléchissent à une planification qui soit supracantonale.
Alors, l'existence aujourd'hui de deux hôpitaux équivalents à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, à la suite de l'initiative H+H, favorise-t-elle l'explosion des primes dans notre canton? Nous avons posé la question au ministre neuchâtelois de la Santé. Écoutez la réponse de Laurent Courte.
Ce n'est pas ça qui justifie la croissance des coûts d'une année à l'autre. En fait, on a aujourd'hui comme problématique principale deux choses. Dans toute une série de domaines, on devrait prendre des décisions en limitant la consommation de certaines prestations, en limitant le niveau de rémunération de certains acteurs, que ce soit ceux qui produisent des médicaments, certaines disciplines médicales ou d'autres. Et personne n'a la légitimité de faire ça. Donc ça, c'est un premier problème, c'est celui de la gouvernance du système. Et le deuxième, il faut que ce pays admette que quand on a une population de 80 ans et plus qui va doubler dans les 15 ans qui viennent, la consommation de soins va de ce fait-là doubler, ou en tout cas croître de manière très importante, et qu'il faut assurer le financement. Dans l'AVS, on admet que quand on a plus de rentiers, on doit trouver le financement. Dans la santé, on veut absolument économiser alors qu'on a le double de bénéficiaires. Et au fond, ce que disait M. Berset à travers tout ça, c'est qu'on a un problème de gouvernance. Il n'y a personne dans ce pays qui peut empoigner les problèmes parce que le Parlement nous a retiré les commandes. Et pourquoi? Parce qu'au Parlement, on a une part très importante de représentants des pharma, des cliniques privées et des assurances qui ont tous des intérêts particuliers à défendre, à voir ce système continuer d'alimenter leurs revenus.
Un dossier préparé par Sarah Massé et Adrien Juvet. L'accueil nocturne de la polyclinique de Val-de-Travers va reprendre dès le 1er octobre. Le réseau hospitalier neuchâtelois indique ce matin que l'équipage du SMUR, basé sur le site de Couvet, s'occupera du tri et de l'orientation des patients entre 20h et 8h. Lorsqu'il sera en mission, les patients pourront entrer directement en contact avec le numéro d'urgence 144 grâce à un interphone installé à l'entrée du site. Pour rappel, l'accueil de nuit de la polyclinique avait été suspendu le 1er juillet en raison de la pénurie de personnel soignant. Un spectacle 100% neuchâtelois. La revue neuchâteloise a dévoilé sa nouvelle pièce aujourd'hui, intitulée « Un conseil dans tous ses états ». Cette troisième édition prend d'assaut le château de Neuchâtel. Les sketchs proposeront au public de découvrir une nouvelle facette de l'exécutif du canton. Le spectacle s'exportera à Colombiers et à la Chaux-de-Fonds et fera l'objet d'une trentaine de représentations. C'est trois fois plus que l'année passée. Un gros challenge pour les comédiens. David Charles, co-auteur et comédien de la revue neuchâteloise.
Oui, c'est beaucoup plus de représentations. C'est un challenge. Ça va être un peu le marathon pour nous, les comédiens. Mais on se réjouit vraiment beaucoup. C'est aussi très intéressant d'expérience de pouvoir jouer un spectacle 30, 40, 50 ou 100 fois, ce qui m'est souvent arrivé. Du coup, le spectacle évolue. Et dans une revue, ce qui est intéressant, c'est justement de traiter des faits d'actualité. Le spectacle va évoluer et je pense qu'entre la première et la dernière, il y aura quand même pas simplement de différences et de nouveautés.
Donc les gens pourront venir voir deux fois la pièce.
Exactement.
Des propos recueillis par Cléa Robert et la première représentation se tiendra au Théâtre de Colombiers le 10 novembre à 20h. Une discussion publique pour parler d'une offensive solaire à La Chaux-de-Fonds. C'est ce que propose l'AEE Neuchâtel ce soir. Avec la tempête du 24 juillet dernier, l'antenne cantonale de l'organisation fêtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique souhaite initier une réflexion plus globale sur une association entre transition énergétique et reconstruction. Pascal Murite, président de l'AEE Neuchâtel, nous explique la genèse de ce projet.
Alors la genèse de l'idée, c'était de faire une catastrophe, une opportunité. On s'est rendu compte qu'avec le nombre de bâtiments qui étaient abîmés à Chaux-de-Fonds, notamment au niveau des toitures, il y avait un potentiel solaire inexploité à exploiter. Et on s'est dit qu'il fallait mettre autour de la table tous les acteurs concernés de manière à avoir cette réflexion, de se dire plutôt que de reconstruire à l'identique des tuiles pour des tuiles, ne serait-ce pas le moment de lancer un grand projet de solarisation des toits chaux-de-fonniers.
Imaginons dans le meilleur des cas que les discussions de ce soir se passent à merveille, que personne ne conteste cette vision. Quelle est concrètement la portée que peut avoir ce projet chaux-de-fonnier?
Alors, le potentiel solaire de la ville de Chaux-de-Fonds, c'est 200 millions de kilowattheures. si on replace les tuiles entièrement par des toits solaires, puis là on parle que des toits, si on prend les façades, on est à 291 millions. Donc il y a un potentiel qui est énorme, donc il faut vraiment qu'on l'utilise, puis qu'on fasse de cette catastrophe une opportunité.
Pascal Mérite était l'invité de Damien Piscopiello dans la matinale. Cette discussion publique a lieu ce soir à 19h30 à l'espace TSM à La Chaux-de-Fonds. La Suisse ne comptera pas de jours fériés supplémentaires pour célébrer sa démocratie le 12 septembre. Le Conseil des États a tacitement enterré ce matin une motion du national en ce sens. Le Conseil fédéral était opposé à l'inscription du 12 septembre comme jour férié national supplémentaire. Après celle des primes de l'assurance maladie, une autre tuile financière tombera sur la tête d'une grande partie des Suisses d'ici la fin de l'année. Suivant la hausse des taux hypothécaires, les loyers vont prendre l'ascenseur. Le Conseil national y a consacré une bonne partie de sa matinée pour finalement rejeter les propositions socialistes de moratoire sur les hausses de loyers. La majorité de centre-droit estime qu'il existe déjà des possibilités de contester les hausses de loyers et qu'il ne faut pas décourager les investisseurs. N'est-ce pas logique que quand les taux augmentent, les loyers soient relevés? Le conseiller national socialiste genevois Christian Dendresse.
Oui, mais le problème, c'est que la plupart du temps, ces hausses de loyers, elles interviennent sur des loyers qui sont déjà trop élevés au regard de la loi. Aujourd'hui, c'est 10 milliards par année de francs que les locataires payent en trop, 10 milliards de francs illicites. On ne va pas rajouter encore des hausses de loyers sur ces sommes et creuser un peu plus encore la tombe des locataires. Je crois que la proposition était assez simple, c'est de dire, pour le moment, on bloque, mais il y a une soupape. C'est que si certains propriétaires n'arrivent pas à obtenir les rendements auxquels ils ont droit, il peut en exister, à ce moment-là, ils ont la possibilité de le faire.
Résultat du vote, comme d'habitude, on dira qu'il n'y a que la gauche qui soutient ces propositions.
C'est un énorme problème, c'est que les immobiliers ont pris le pouvoir au niveau du Parlement fédéral et ce depuis plusieurs années. C'est impossible de dégager des majorités, malgré le fait qu'aujourd'hui, les loyers, ce sont la principale préoccupation en fait, de la population suisse.
Le conseiller fédéral Guy Parmelin a contesté la passivité qu'on lui reproche face aux loyers élevés, voire surfaits. Pour lui, tout moratoire est disproportionné.
Le moratoire demandé par la motion fait référence à deux initiatives parlementaires qui ont été rejetées dans les deux chambres du Parlement au mois de décembre de l'an passé. Il n'existe pas de majorité politique pour introduire un contrôle officiel du rendement des loyers dans cette salle. En outre, il y aurait un risque que l'on renonce à des investissements et c'est exactement le contraire de ce dont nous avons besoin pour lutter contre une pénurie de logements qui se profile.
Un dossier de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Le Conseil des États consacrera demain une session extraordinaire au logement et au loyer. Et à l'étranger, la diplomatie russe accuse, selon elle, la frappe ukrainienne de vendredi sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été mise en œuvre à la demande des services de renseignement américains et britanniques. Il n'y a pas le moindre doute, a affirmé la porte-parole.
Il est 12h28 sur RTN.
Sport. En première ligue de football, le FC La Chaux-de-Fonds se déplace ce soir en terre genevoise pour affronter Chennois. La partie débute à 20h15. Le FCC est actuellement 10e du classement et les Genevois sont 2e. Et l'Ukraine boycottera les compétitions européennes de football auxquelles participeront les équipes russes, a annoncé la fédération ukrainienne ce matin. La guerre entre les deux pays explique cette mesure. Cette annonce intervient au lendemain de la décision de l'UEFA de réintégrer les équipes russes de moins de 17 ans dans ces compétitions. La Fédération ukrainienne de football condamne fermement ce choix selon un communiqué publié sur son site internet. La formation revient à 13h. Je vous souhaite un bel après-midi.